France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est un autre duo que nous recevons ce matin, deux des trois Wanderer. Bonjour messieurs, Jean-Marc Philips, Varjabédian et Vincent Coq.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'avez-vous fait de votre violoncelliste?
Bon, je sais pas.
On s'est vu il y a trois jours pour un concert, on se voit demain, mais
Raphaël Pidou, on le recevra dans quelques semaines parce qu'il sort un disque solo. Oui. C'est important pour vous les uns les autres d'avoir chacun de continuer à avoir une vie musicale seule sans les deux autres, ou vous le prenez parfois comme une aventure extra-conjugale?
Non, je pense que c'est important, mais ça dépend aussi un peu de chacun. Vincent répondra pour lui, parce que je pense on a aussi chacun une place différente dans le trio. Je pense que pour un pianiste, mais c'est lui qui le dira, de trio, il y a un répertoire déjà tellement lourd qu'il n'a pas forcément besoin d'aller explorer autre chose. Pour le violoniste ou le violoncelliste, c'est moins chargé. Donc si on se cantonne dans ce rôle de violoniste du trio Wanderer, il y a danger qu'on perde un peu son niveau. Donc c'est pour ça que moi je continue les aventures, comme vous dites, extra-conjugales, mais qui en fait me font beaucoup de bien, je pense, font beaucoup de bien au trio, en continuant d'essayer de jouer un peu en soliste, en sonate, avec d'autres groupes.
J'ai tourné Richard Galliano, par exemple.
J'ai tourné pendant plus de 15 ans avec Richard Galliano, j'ai appréhendé d'autres scènes. Ça m'a beaucoup enrichi de considérer la scène différemment, façon jazz, façon voilà. Donc toutes ces expériences m'ont beaucoup enrichi et je pense ont apporté au trio Wanderer.
Vincent Coq.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Alors après, effectivement, mais disons comme déjà les. Il faut dire que les pianistes sont corvéables à merci, c'est-à-dire que quand, par exemple, il y a des événements, des festivals ou des semaines, eh ben, disons que les cordes vont jouer en trio ou en sonate, mais nous, on se tape toutes les sonates, violoncelle, violon, alto, clarinette, c'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours le pianiste qui fait tout parce qu'on a besoin de lui, donc déjà, par la force des choses, on est obligé de sortir de son répertoire de trio, ça arrive très souvent, et après, on a chacun de nos activités, chaque activité extérieure apporte de toute façon quelque chose personnellement à l'ensemble, et que ce soit musical ou même des activités d'enseignement, on n'a pas les mêmes. Moi, j'enseigne en Suisse, mes collègues enseignent à Paris. Donc, et c'est très bien comme ça. C'est très important, justement, de mettre de l'air entre soi le plus souvent possible. Justement, c'est pas une entrée en religion. C'est très important. Faut pas que ça commence à ressentir le moisi, un ensemble. C'est pas quelque chose qui reste, où les gens restent. Non, mais c'est vrai, c'est très important. Parce que la routine qui peut s'installer, ça tue, je pense. Donc, il faut le plus possible. On se voit suffisamment. Pour le trio, donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir ailleurs.
Donc des aventures en solo de temps en temps, voilà. Mais aussi parfois vous élargissez le cercle de vos amis, voilà. Et le trio Wanderer, voilà, devient un quintet. le scherzo du quintet avec piano de Shostakovich, le trio Wanderer, Catherine Montier au violon et Christophe Goguet à l'alto. C'est le nouveau disque du trio Wanderer, donc et plus si affinité. Disque paru il y a quelques jours chez Harmonia Mundi. Mais je vous pose la question dans l'autre sens. Là, les deux musiciens qui se joignent à vous, c'est difficile de trouver l'équilibre quand on se retrouve à 5 et qu'on est habitué à jouer à 3, Jean-Marc Philippe.
Pas tant que ça, parce que d'abord, ça fait très longtemps qu'on fait ce genre d'exercice. Je veux dire, on a enregistré il y a assez longtemps déjà avec Antoine Tamestil et De Quatuor de Forêt. On a enregistré avec Christophe Goguet les Quatuors de Brahms. On a enregistré clarinette. Enfin bref, ça date pas d'hier qu'on élargit un peu justement le trio. Par contre, c'est effectivement nouveau qu'on se soit élargi au point du quintet. Sauf qu'on avait déjà fait le quintet La Truite. Mais voilà, et le quintet de Hummel, donc mais la quintette avec un second violon et un alto, c'est la première fois.
C'est juste on trouve ses marques facilement.
C'est disons que par rapport au trio, c'est plus un travail de cordes en amont. On a fait très sérieusement, vraiment un travail de quatuor à cordes. Et pour trouver une cohésion, une justesse, parce que bon, évidemment, à partir du moment où on aborde ce genre de répertoire, on se heurte à toute la discographie qui nous a précédé avec les plus grands quatuors à coller à un pianiste. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc c'est rare, effectivement, qu'un trio... pour le quintet, en général, c'est le truc rituel, c'est un quatuor à cordes constitué et un pianiste soliste. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc nous,
là, c'est une autre combinaison.
Ouais, nous, c'est un peu plus original. Je dirais, mon collègue me confirmera, mais je crois pas que le Beaux-Arts Trio ait tellement enregistré de quintet.
Bah si.
Ah bon. Voilà. Donc c'est faisable. Donc, voilà. Non mais le matin, on va dire des bêtises, hein, c'est normal.
Je pense que les quintets de Chopin, ils ont dû le faire même 2 ou 3 fois.
Oui. Ah bon, bah, alors, donc tout va bien.
Alors. Vincent Koch, ce quintet de Shostakovich, vous avez enregistré précédemment Rachmaninov, c'était les deux trios élégiaques. Vous creusez. On est dans un univers évidemment musical totalement différent. On est dans le 20e siècle, 1940. Vous aviez ce désir de continuer. Oui, on a creusé ce sillon russe.
On avait fait les deux trios de Shostakovich il y a quelques années déjà. Et il y a une pièce aussi sur ce disque, on portera peut-être après, qui est une pièce pour trio et voix. Et donc ça, on voulait l'enregistrer absolument parce que c'est vraiment aussi un grand chef-d'œuvre de la fin de Shostakovich, la fin de la vie de Shostakovich. Et pour le, comme il fallait trouver un couplage. Et bon, on a pensé tout de suite au quintet, qui est d'ailleurs pas très loin du trio, parce que le trio c'est 1944, le quintet c'est 1940, donc c'est pas tout à fait le même esprit que le trio qui est vraiment noir de la première à la dernière note. Le quintet, il y a des sourires.
Ce qu'on vient d'entendre, le scherzo, c'est Shostakovich quand même rarement aussi souriant, même si ça grince.
Un peu grince. Et le final, il y a un côté populaire dans le final, même s'il y a toujours des petits moments sombres, c'est pas du tout comme le trio, mais c'est cette même période, donc c'est un chef-d'œuvre. On a dit que ce sont deux œuvres qui allaient parfaitement ensemble, donc c'était l'occasion de. On cherche toujours dans les quand on fait un nouveau disque, quand on a une œuvre un peu unique à la coupler avec quelque chose, disons, qui nous intéresse, qu'à le dire, à jouer. Donc c'était ce choix-là. On préfère jouer des chefs-d'œuvre, voilà, avec une œuvre moins connue qui sont les romances.
Chef-d'œuvre, c'en est un.
Ah, le quintet, ça fait partie des chefs-d'œuvre. Et c'est intéressant parce que c'est une œuvre, mais comme dit Jean-Marc, très enregistrée, mais on a la chance pour le quintet d'avoir un enregistrement de Shostakovich des années 50. Et quelquefois, Internet, le numérique a d'intérêt. Il y a actuellement, on a trouvé sur YouTube une vidéo aussi d'un autre enregistrement de Shostakovich de 1940, donc de l'année de la composition à la radio soviétique, avec toujours le quatuor Beethoven. Donc on a deux témoignages de ce, un concert, un disque de ce quintet avec Shostakovich au piano. Donc c'est intéressant de voir. Et on a aussi eu la chance de travailler, pour rentrer dans un peu plus en détail, avec quelqu'un qui s'appelle Rostislav Dubinsky, quand on était étudiant, qui était le premier violon du quatuor Borodine, qui avait travaillé lui-même avec Shostakovich. Et c'est intéressant de voir les différences de l'interprétation de quelqu'un qui a connu Shostakovich, de Shostakovich lui-même. Ça se regroupe pas toujours, c'est ça qui est intéressant. Donc ça ouvre un champ de possibilités au niveau interprétatif vraiment formidable.
Ça influence forcément.
Oui, alors ce que vous voulez dire Vincent, effectivement, c'est que on a entendu des très belles interprétations de ce quintet. Moi j'ai découvert ce quintet quand j'étais jeune, par les plus grands interprètes de l'époque, que je ne vais pas citer puisque je ne vais pas en dire du mal, mais pour dire qu'il y a eu une vision vraiment très soviétique, très sombre de ce quintet, qui va très bien avec le trio, mais qui va beaucoup moins bien avec le quintet. Effectivement, le trio est une œuvre de guerre, où tout est sombre, tout est noir, c'est la destruction, la mort, alors que c'est déguisé derrière quelque chose d'un peu... parce qu'il y a un scherzo aussi dans le trio. Mais pour pouvoir passer la censure, Shostakovich a l'habitude de déguiser, disons, son drame derrière d'un côté un peu sarcastique, un vaguement humoristique. Bon. Mais dans le quintet, c'est absolument pas le cas. À part le premier mouvement et la fugue qui sont assez sombres, sinon le scherzo qu'on vient d'entendre a un côté effectivement sarcastique, mais quand même assez joyeux. Et le final est beaucoup plus, est presque enfantin en fait. Et pendant des années, ce quintet a interprété d'une façon très très sombre, très très noire, très lent, des tempos extrêmement lents, tout ça. Et je pense que ça nous a un peu pollué. Et de revenir aux sources et d'entendre Shostakovich l'interpréter lui-même avec beaucoup plus de vivacité et de légèreté, et ben ça nous a influencé dans ce style-là, en fait.
Une œuvre qui a d'ailleurs connu un très grand succès au moment de sa création en 1940, un quintet en 5 mouvements. Le quatrième est un intermezzo qui, dans votre interprétation, a quelque chose d'assez doux et apaisant. Qu'est-ce que vous diriez de ce mouvement qu'on va écouter maintenant?
J'y vois comme une espèce de chant d'amour, tout simplement, ce qui est rare chez Shostakovich. Et aussi une référence à Bach, puisque le premier mouvement, il y a un côté un peu Bach, et ensuite il y a une fugue. Et je sais pas, moi, c'est mon imaginaire, mais j'imagine que c'est la deuxième aria, en fait, puisqu'on a ces pizzes de violoncelle qui font comme donc là dans l'aria de Bach. Et puis c'est cette voix qui part vers le ciel. J'y vois quelque chose effectivement très très lumineux.
Voici la deuxième aria, donc. Vous avez perdu Vincent Koch, mais vous voici dans cet intermezzo de ce quintet avec piano de Shostakovich, le trio Wanderer, Catherine Montier et Christophe Goguet. C'est un disque qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. On va écouter l'une des 7 romances aussi dans quelques minutes. C'est vous, en fait, qui chantez l'amour, Jean-Marc Philippe, Varjabédian au début.
Tout à fait, là aussi, mais bon, les romances sont beaucoup plus sombres quand même, là, pour le coup, on est vraiment dans un univers très typique de Shostakovich, puisque c'est sur des poèmes de Bloch, qui parlent que de destruction, de machin, et si, effectivement, la pièce pour violon et chant est peut-être la plus... positive, on va dire. Voilà. Mais le reste, ça rigole pas.
On va écouter ça dans quelques minutes. Ça rigole pas, c'est même tempétueux par moment. Je voudrais quand même qu'on parle aussi de ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a 4 mois, vous avez signé cette tribune des musiciens indépendants qui alertait sur leur situation particulière. 4 mois après, Vincent Coq, Jean-Marc Philippe Zarchamédian, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu?
Alors, oui, enfin... Franchement, il faut reconnaître qu'en France, on est quand même beaucoup plus privilégié que d'autres pays. L'Angleterre, c'est dramatique. Je parle pas de l'Italie, tout ce genre de pays. En France, on a le système de l'intermittence, on a le chômage, comme pour les entreprises d'ailleurs, pour partiel, parce qu'il n'y a pas que les musiciens. Le monde, on ne parle jamais des agents de concert, qui sont un monde très important.
On en a parlé la semaine dernière.
Voilà. Mais c'est très important. En France, ils ont le chômage partiel. En Angleterre, ça va être des faillites, comme il y a eu aux États-Unis. Donc, c'est très difficile de dire, parce que honnêtement, je pense que tout le monde voudrait que ça se passe mieux. Moi, j'ai pas d'opinion, mon opinion a pas grande importance en plus, mais je crois qu'il y a encore quelques points.
Merci quand même.
Oui, non, moi, actuellement, si je peux dire un petit mot, parce que j'ai vu un petit mot de Janine Rose que j'aime beaucoup. Je pense qu'il faut penser. On oublie un tout petit peu peut-être les producteurs indépendants qui sont très importants en France, pas assez nombreux et très importants. Donc c'est vrai que là, à ce qu'elle dit, ils sont un tout petit peu oubliés. J'espère que ça va être corrigé très très vite. Après, qu'est-ce que vous voulez? On est comme beaucoup de métiers, on est un petit peu, on est lié à ce qui se passe de la situation. En France, les concerts reprennent. Après, il y a des concerts comme en Allemagne qui sont très compliqués pour des questions, parce que des règles sanitaires allemandes. Donc,
vous devez jouer en Allemagne la semaine prochaine.
La semaine prochaine, mais à ce jour-là, aujourd'hui, on ne sait pas si on pourra y aller. Parce que est-ce qu'on aura des tests à temps, et est-ce que les Allemands doivent changer en plus leur règle sanitaire? Ça change tous les jours. On a pu aller en Italie, au Danemark, en début septembre. Là, ça vient de changer pour l'Italie. Ça devient plus compliqué. Et toute l'année, ça va être des montagnes russes comme ça. Il faut faire le dos rond et attendre. Il n'y a pas d'autre solution. L'enseignement reprend. On est très heureux pour nos étudiants, que ce soit au Conservatoire de Paris ou moi en Suisse, qui avait déjà repris d'ailleurs au mois de mai. Donc, ça c'est très bien pour les étudiants, les cours présentiels, parce que moi je crois pas du tout à la pérennité du numérique. C'est que ça c'est un pis-aller qui est très bien d'ailleurs quand on peut faire autrement. Mais le présentiel c'est essentiel, le contact humain, comme le concert d'ailleurs. Pour plein de raisons, le concert numérique, quand il y a rien d'autre, pourquoi pas, mais pour les musiciens économiquement, c'est absolument pas viable. Et puis depuis l'Antiquité, un spectacle, c'est du public et des gens sur scène ensemble. Et ça, j'y tiens beaucoup. Pour moi, sinon, les choses n'auraient pas d'intérêt.
Le public sera là demain à Brest. Triple concerto avec l'orchestre de Bretagne, l'orchestre national désormais de Bretagne, dirigé par Noam Zour. Ça, c'est donc demain à Brest Quartz.
Au Quartz. Premier concert pour ce chef depuis 6 mois.
Et puis la première fois que le trio Vendeur joue à Brest.
Ah bon?
Voilà. C'est-à-dire, on a joué un peu partout dans le monde quand même, faut avouer, mais on n'a jamais joué à Brest.
Voilà.
Et comme j'ai de la famille à Brest, du côté de ma femme, je suis très heureux de jouer à Brest demain.
Première dans le Finistère pour le trio Vendeur, comme quoi il y a toujours des premières, même pour un trio qui a 33 ans et qui vous serez à Versailles au théâtre Montentier. Ça, c'est un peu plus tard, le 22 novembre, avec le deuxième trio de Schubert et le sixième de Beethoven. D'ailleurs, une question toute bête, mais comme beaucoup d'ensembles de musique de chambre, vous jouez beaucoup à l'étranger.
Oui.
J'espère pour vous en Allemagne la semaine prochaine. Est-ce que vous avez le statut d'intermittent, ou est-ce que parce que vous jouez plus à l'étranger qu'en France, vous ne l'avez pas?
Non, on n'a pas le statut d'intermittent sur le plan. Enfin, je sais pas. On est peut-être considéré sociologiquement comme des intermittents, mais techniquement, au niveau des impôts, on n'a pas le statut d'intermittent. C'est-à-dire qu'on touche pas d'allocation.
Voilà, on est salarié intermittent, parce qu'en France, les musiciens sont salariés, donc on touche des salaires intermittents. Mais personnellement, on ne cherche pas à être intermittent parce qu'on n'en a pas besoin. Et personnellement, je trouverais ça indécent de ma part de demander à être intermittent, voilà, pour dire les choses très clairement.
On va écouter un nouvel extrait, Shostakovich, de ce disque. Vous l'avez dit, ce n'est pas le quintet et en complément les 7 romances, mais votre désir de départ, c'était d'enregistrer ces 7 romances. Et comme vous l'avez dit, Jean-Marc, ça bouge et c'est même tempétueux. Thank you. La tempête, l'une des sept romans sur des poèmes d'Alexandre Bloch, donc Chostakovitch avec le trio Wanderer et la voix d'Ekaterina Semenchuk. Mais en fait, là, on n'entendait pas. Il manque quelqu'un du trio.
Bah, c'est comme il manque, comme il manque là ce matin, bah, il manque aussi dans l'enregistrement. Voilà. Vous avez très bien choisi. Voilà.
Parce qu'en fait, c'est cette romance Chostakovitch et c'est des différentes combinaisons.
Et bah, c'est-à-dire qu'il a fait les combinaisons mathématiques, trois duos, trois trios, et finalement pour la dernière pièce. Puisqu'il y en a sept, la réunion de tout le monde. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a dû s'inspirer il a dû mettre dans l'ordre, je sais pas, les poèmes de Bloch ou est-ce qu'il est là, puisque le dernier poème, c'est justement la musique qui rassemble.
1967, donc une dizaine d'années avant sa mort, c'est un des rares essais dodécaphoniques de Chostakovitch.
L'avant-dernière pièce, qui a effectivement juste avant la pièce musique, il y a une série de 12 notes. Alors André Lischke dit que c'est peut-être spécialiste de la musique de Chostakovitch, que c'est peut-être justement un moment un peu déguisé pour Chostakovitch, de rébellion un peu contre le système, parce que c'était pas très bien vu, bien sûr, en Union soviétique, le dodécaphonisme c'était même interdit. Donc, mais c'est un dodécaphonisme qui est très très light, en fait, on reste quand même dans un monde très tonal. C'était juste, il y a une série de notes de cette pièce-là, qui est d'ailleurs pour violoncelle et chant, parce que dans cette pièce, c'est intéressant, il explore toutes les formations donc, et cette pièce-là, la celle où il y a c'était dodécaphonique, il n'y a pas de piano d'ailleurs.
C'est donc les sept romances qui sont le programme principal, votre idée de départ pour ce disque, voilà, et le quintet.
C'est une œuvre extraordinaire et qu'on n'a pas l'occasion de. Assez unique. Il y a très peu de pièces pour trio et chant depuis Beethoven. Il y a Beethoven et Haydn. Il y en a des chants, disons anglais. Il y en a 300-400. Mais après, il y a très peu de choses, disons, pour trio et chant. C'est rarissime. Et là, c'est une chance. Il avait écrit pour Vilchaskaya, Rostropovitch, Oistrakh.
Pour finir, d'un mot, Vincent Koch, Jean-Marc Philippe Zarjabédian, vous enseignez, vous avez parlé de la reprise du présentiel, des cours en vrai, en chair et en os. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos élèves?
Un tout petit peu. Moi, je suis donc professeur de violon, j'ai une classe de violon au CNSM de Paris. J'étais étudiant de très haut niveau, je ne suis pas si inquiet que ça, parce que je pense qu'ils s'en sortiront toujours, mais ils constituent une forme d'élite, je sais bien que ce terme n'est pas à la mode, mais voilà. Mais il n'y a pas que le Conservatoire de Paris. Il y a d'autres jeunes qui se lancent dans la musique, et quand on voit ce qui se passe en Angleterre, où plus de 30% des musiciens, on a tous lu cet article hein, qui a traîné sur les réseaux sociaux.
Ils changent carrément
de métier, quoi. Donc, c'est sûr que l'avenir est pas reluisant. Donc, j'encourage, par exemple, j'ai une étudiante là qui vient de rentrer en formation de CA, et je l'ai encouragée vraiment à la poursuivre, en lui disant que c'est bien qu'elle fasse ça pour qu'elle se trouve un métier, une place de prof, parce que courir le cacheton, ça va devenir compliqué.
Merci à tous les deux, Vincent Koch, Jean-Marc Philippe Zarjabédian. Grande première demain à Brest, au Quartz, le triple concerto avec l'Orchestre National de Bretagne. On se quitte avec la fin de ce quintet. un sourire presque sans grimace à la fin du quintet avec piano de Shostakovich, le trio Wanderer, Catherine Montier, Christophe Goguet, un magnifique disque Harmonia Mundi qui vient de paraître et c'est un choix France Musique. Merci à tous les deux et rendez-vous donc bientôt avec le violoncelliste Raphaël Pidoux, on pourra recouper les paroles. Alexandre, on saura si vous êtes parti en Allemagne ou pas. Voilà. Alexandre Kantorov, le jeune pianiste, sera notre invité demain matin à 8h30. Merci à Marion Guillemet, Margot Muller, leur poissonnier Stéphane Poitvin d'Alia et Félix Levaché.
À réécouter sur francemusique.fr.